Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Heureux de vous retrouver pour commenter les événements musicaux passés et vous présenter ceux qui s'annoncent. Et concernant ces derniers, ils vont être très nombreux. J'ai donc appelé à la rescousse Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Notre duo accueille aujourd'hui, comme il est désormais de coutume dans cette émission, un invité d'honneur, Alain Lacroix, le directeur artistique de la Saison Bleue, cette saison de concerts qui a longtemps fait les beaux jours de la Salle Bleue à l'espace Croix-Baragnon et qui depuis l'an dernier investit de nouveaux lieux. Mais la programmation est tout aussi riche et variée qu'auparavant. Celle de la saison 18-19 le confirme et elle commence dans 2 semaines. Nous allons lui consacrer une large partie de cette émission avec Alain Lacroix. Avant cela, petit retour sur l'actualité musicale de la semaine dernière pour la première partie de ce numéro.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous vous l'avions annoncé et présenté lors de la venue du mandoliniste toulousain dans cette émission il y a 2 semaines. Le concert de Julien Martineau avec l'Orchestre National du Capitole a eu lieu la semaine dernière à Moissac puis à la Halle aux Grains à Toulouse. C'est le chef italien Rinaldo Alessandrini qui dirigeait lors de ces soirées. Il y avait 2 œuvres de Schubert au programme et le concerto pour mandoline numéro 2 de Raffaele Calace. Nous allons commencer par cette pièce et son interprétation parce que c'est là bien sûr que Julien Martineau a déployé tout son talent et sa virtuosité de champion de la mandoline. C'est ainsi que l'appelle Jean-François Zigel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Serge ?
Ah oui, oui, tout à fait. Il s'agit là vraiment d'un défenseur de son instrument comme il y en a peu. Et donc, c'était heureux qu'il se produise justement dans cette série Happy Hour. Alors, je voudrais quand même rappeler que Happy Hour, c'est le samedi après-midi à 18h et que cet horaire et les programmes assez courts, 1 heure de musique à peu près, ça attire un nouveau public et c'est ça qui est important. Donc on a pu constater samedi dernier en particulier qu'il y avait énormément de familles avec des enfants et des gens qui manifestement venaient au concert pour certains, je suis sûr, pour la première fois. On applaudit entre les mouvements, mais c'est pas grave tout ça. Ce sont des gens qui ne sont pas au fait des conventions,
des codes du concert classique.
Donc ça prouve qu'il y avait un public nouveau et ça c'est intéressant. Et donc effectivement, le cœur du concert était occupé par ce deuxième concerto de Calace, donc cet Italien, ce Napolitain incroyable qui n'a composé que pour la mandoline.
Mandoliniste lui-même.
Il était mandoliniste et il était fils d'un facteur de mandoline, donc Napolitain. Facteur dont la maison existe encore d'ailleurs, de nos jours, alors que Calace a composé ses musiques autour des années 20, 1920. Donc,
oui, il y a près d'un siècle.
Oui, à peu près ça. Ouais. Voilà, ce concerto était une découverte pour la plupart d'entre nous. Il vient d'être enregistré pour la première fois dans une orchestration de Yann Olivo, qui est une orchestration qu'a commandée Julien Martineau lui-même, puisque l'original de Calace, c'est pour mandoline et piano. Et donc, pour la première fois, on l'entendait avec orchestre, une orchestration très bien faite d'ailleurs, avec donc les cordes de l'Orchestre National du Capitole et la direction donc d'Alessandrini, dont Rinaldo Alessandrini, qui lui est un chef issu du monde baroque, puisqu'il a fondé le Concerto Italiano, qui est son ensemble sur instruments anciens, avec lequel il parcourt le monde, en quelque sorte. Donc ce concerto a été une découverte, une belle découverte, avec un jeu, une implication de la mandoline qui sort là de son domaine de la sérénade, de la simple sérénade ou de la musique du soleil. Moi j'aime bien ce que Julien Martineau lui-même a déclaré, il a dit ceci: « La mandoline, instrument du soleil et de la sérénade par excellence, traverse également les siècles comme instrument de concert ». Et c'était vraiment l'application qu'on a eue en direct, de très belles mélodies, avec une fusion entre l'orchestre et la mandoline tout à fait excellente. En particulier, alors oui, une chose sur laquelle je voudrais insister, au premier mouvement, il y a une très longue cadence qui termine le mouvement, très virtuose, très compliquée, qu'il joue avec beaucoup de talent, comme d'habitude. Et alors je lui ai posé la question, c'est l'original, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est vraiment Calace qui a composé cette cadence, donc c'est intéressant à savoir.
Alors, il n'y avait pas que le concerto numéro 2 de Calace au programme, il était en plein milieu du concert, comme souvent les concertos, c'est là que les solistes interviennent, et il était encadré par 2 œuvres de Schubert, pas celles qu'on est forcément le plus habitué à entendre d'ailleurs.
Non, non, exactement. Et paradoxalement, deux œuvres qui avaient une petite couleur italienne. C'est en particulier le cas, évidemment, par l'ouverture.
C'est dans le titre.
Dans le style italien, qui est la deuxième ouverture dans le style italien. On a composé deux. Hein. L'une, c'était la D590. Celle qu'ils ont jouée samedi, c'était la D591. Donc, une musique qui évoque un peu Rossini, d'ailleurs, paradoxalement. Très bien, évidemment, Alessandrini est très à l'aise dans cette musique, qui est un peu dans ses racines, hein, dans son ADN. Donc, c'était très, très beau. Et la troisième symphonie, bon, beaucoup plus élaborée, donc de Schubert. Bon, n'oublions pas qu'elle a été composée par un adolescent de 18 ans. Hein. Schubert, à l'époque, ça fait partie des six symphonies de jeunesse hein, de Schubert. Et alors, c'est amusant parce qu'elle précède de peu la quatrième, qui, elle, est la symphonie tragique, au contraire. Et la troisième est une symphonie heureuse, hein, une symphonie souriante, vraiment qu'il a très bien jouée et dans laquelle les bois jouent un rôle important, vraiment prédominant. Et vraiment, on est gâté parce que le pupitre des bois de l'Orchestre du Capitole est excellent. Aussi bien flûte, clarinette, basson, hautbois, bien sûr. Donc, c'était tout à fait délicieux, toute cette symphonie. Alors, il faut préciser qu'il y a eu un bis pour l'orchestre et un bis pour la mandoline. Alors, le bis pour l'orchestre, c'est là aussi une découverte. J'ignorais, je dois dire, que Schubert avait composé un opéra qui s'appelle « Les Amis de Salamanque ». Ah ben voilà, maintenant nous le savons. Et l'orchestre a joué sous la direction de Rinaldo Alessandrini l'ouverture de cette œuvre très enlevée, très joyeuse. Il ne faut pas oublier que Schubert a composé de nombreux opéras qu'on ne joue strictement jamais.
Beaucoup de gens ne connaissent pas les titres des opéras de Schubert et pour cause. D'ailleurs, Alessandrini a annoncé le titre du bis qu'ils allaient jouer. Je pense que personne n'a rien compris. Hein.
Non, exactement. Et lui me l'a annoncé avec un grand sourire parce qu'il s'est rendu compte.
Oui, il savait que, bon,
il y avait peu d'écho quant à la connaissance de cette œuvre. Et puis, le soliste, donc, Julien Martineau, bien, a été rappelé, acclamé, applaudi. Et donc, il a joué de nouveau une œuvre de Raffaele Carace qui s'appelle la Piccola Gavotta, donc une petite gavotte en quelque sorte, qui était très délicieuse elle aussi. Donc vraiment un concert qu'on suit avec le sourire.
Ah oui, tout à fait. Et il faut dire que Julien Martineau est évidemment un grand défenseur de son instrument, la mandoline. C'est pas Alain Lacroix qui me démentira parce qu'il le connaît depuis longtemps lui aussi. Et c'est aussi un grand défenseur de Carace. Hein. Vraiment,
il
défend ce compositeur. Alors, évidemment, il a essentiellement composé pour la mandoline.
Il a composé.
Mais il faut dire qu'il est injustement méconnu, moi je trouve.
Oui. Mais on note 200 œuvres, de l'ordre de 200 œuvres pour la mandoline composées par Carace, ce qui est incroyable.
Julien avait fait d'ailleurs un disque précédemment uniquement avec les œuvres de chambre de Carace.
Tout à fait.
Et qu'il avait déjà présenté dans notre série à Croix-Maragnon. Un jour, il était venu me voir en me disant défendant la mandoline. Moi, j'avais dit la mandoline, comme tout le monde un peu. Et puis, il était tellement. Passionné, tellement défenseur, je lui dis allez, ok, on y va. Et il avait fait ça très très bien et le public était ravi. Et j'avais découvert avec lui Carace à cette époque-là.
Oui, parce que ça fait partie des musiciens que vous suivez et soutenez depuis longtemps, Julien Martineau.
Oui, tout à fait. Oui.
Qui depuis a eu les honneurs des émissions de Jean-François Zigel à la télévision, les honneurs des victoires de la musique classique. Il avait joué pour son disque précédent, déjà chez Naïve Classique, Paradis Latin.
Avec Thibaut Covin, qui est un autre guitariste hyper important. Dans l'ère de la guitare, qui est un Bordelais, pas comme Thibaut Garcia, mais c'est un Bordelais qui est la génération précédente de Thibaut.
La guitare classique, la mandoline en France, il y a une génération formidable en ce moment.
Tout à fait. Et puis il faut préciser quand même que ce concerto fait partie du dernier CD, du dernier album enregistré par Raphaël Calade, par... par notre ami Julien, donc, et dans lequel il y a à la fois les deux concertos, de Carace et puis...
il y a le concerto numéro 2 de Carace et les deux concertos de Vivaldi.
Pardon, les deux concertos de Vivaldi et le trio de Vivaldi, plus une œuvre d'un certain Domenico Cambioso, que je ne connaissais pas.
À découvrir également.
Que je découvre.
Eh bien, vous faites bien d'en parler parce que nous allons maintenant réécouter pour le plaisir, et je l'espère pour celui des auditeurs, un morceau du concerto pour mandoline numéro 2 de Carace, interprété par Julien Martineau, un extrait justement de ce CD Come una volta, tout récemment paru sous le label Naïve Classique. Julien Martineau y est accompagné par l'ensemble Concerto Italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini.
Thank you.
Le premier mouvement maestoso du concerto pour mandoline numéro 2 de Raffaele Calace, interprété par Julien Martino avec l'ensemble Concerto Italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini, extrait du CD Come una volta, qui vient donc de paraître sous le label Naïf Classique et que vous pouvez vous procurer chez tous les bons disquaires, entre autres à la Fnac ou dans les magasins Cultura. Alors, Serchosi, vous vouliez nous présenter le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole qui a lieu ce samedi 27 octobre à 20h à la Allograin. Alors là, c'est pas Tougan Sokiev qui dirige.
Non, un nouveau venu qui a un nom célèbre et qui se fait un prénom. Ce chef d'orchestre s'appelle Michael Zanderlin. Et Michael Zanderlin, c'est le fils de Kurt Zanderlin, un très grand chef d'orchestre du XXe siècle qui a beaucoup dirigé l'orchestre philharmonique de Leningrad à l'époque, lorsque Saint-Pétersbourg s'appelait Leningrad, et qui était un immense chef d'orchestre, qui a enregistré énormément, chez Deutsche Grammophon d'ailleurs. Et donc, nous recevons son fils, qui est violoncelliste, et qui vient diriger l'orchestre dans deux œuvres très différentes, hein, mais surtout, il va diriger la fameuse symphonie, dite symphonie des trémolos de Bruckner, la 7e, qui est une symphonie magnifique, une symphonie splendide. Donc, il vient diriger ça avec l'orchestre du Capitole. Bon, c'est vraiment d'un grand intérêt, puisque les symphonies de Bruckner, on les appelle les cathédrales symphoniques.
Ça ne se joue pas avec 40 musiciens.
Non, il faut vraiment du monde, avec d'ailleurs un instrumentarium particulier, puisque dans cette symphonie, il faut des Tuben, les fameux instruments dérivés des cors, entre les cors et les tubas, qui ont été inventés par Wagner d'ailleurs et repris par Bruckner, qui vient diriger ceci. Et donc c'est un grand plaisir de découvrir ce chef d'orchestre, par ailleurs violoncelliste. Et puis il y a aussi une jeune violoniste britannique qui s'appelle Nicola Benedetti, qui avait déjà été reçue à la Allograin en 2015, qui avait joué le concerto de Korngold et qui avait fait sensation dans ce concerto, qui avait été vraiment excellente. Et là, elle vient diriger alors une œuvre extrêmement classique, qui est le deuxième concerto pour violon de Mendelssohn, le fameux concerto. Donc là, pas de surprise quant au programme, mais donc un grand intérêt pour entendre la manière dont elle aborde cette œuvre emblématique, hein, de tous les grands solistes du violon de tous les temps, depuis l'époque de Mendelssohn.
Voilà, donc ça c'est ce samedi 27 octobre à 20h là à l'Allograin, Michael Zanderlin à la direction, Nicolai Benedetti au violon, et donc au programme le deuxième concerto pour violon de Mendelssohn et la 7e symphonie de Bruckner. Nous refermons cette première partie d'émission là-dessus. Petite pause d'une minute et l'on se retrouve avec Alain Lacroix pour la seconde partie et la programmation de la saison bleue. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Serchosi, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Alain Lacroix, directeur artistique de la Saison Bleue.
Mélomanie, l'agenda.
Nous allons entrer dans le détail de la programmation de la saison bleue 18-19 avec Alain Lacroix dans quelques instants. Une programmation où, je le précise afin qu'il n'y ait pas de malentendu, il y a de nombreux concerts de musique classique, mais pas seulement. Il y a aussi du jazz joué par d'excellentes formations à découvrir et à écouter au métronome. Nous, pour rester cohérents avec la vocation de cette émission, nous allons rester à la programmation classique et Dieu sait qu'il y a largement de quoi faire. Tout d'abord, Alain Lacroix, je voudrais qu'on parle des lieux des concerts. Ils ont longtemps été donnés à la salle bleue de l'espace Croix-Baragnon, je le rappelais en début d'émission. La fermeture de celui-ci la saison dernière vous a amené à les programmer dans de nouveaux lieux, et il y en a plusieurs. Est-ce que la situation est bien claire désormais pour les années qui viennent? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les lieux en question?
Alors donc, vous venez de rappeler que le jazz maintenant a un lieu, et un seul lieu, c'est le Métronome, avec une double programmation. Les grands concerts sont donnés dans la grande salle, et les plus petits concerts, et justement, j'ai voulu une certaine cohérence aussi dans ma programmation, ce que j'appelle du jazz de chambre, pour rapprocher de la musique de chambre, dans la boxe. Donc ça, c'est le Métronome. Ensuite, les concerts exceptionnels, cette année en tout cas, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. J'appelle concert exceptionnel quand il y a des grands solistes, c'est notamment le cas de Philippe Cassa et de ses invités, ou de Jean-François Zigel, et qui nécessite une salle de moyenne importance pour de la musique de chambre, eu égard aux interprètes qui viennent. Et puis ensuite, nous avons une programmation maintenant installée aux abattoirs, qui sont véritablement un partenaire important pour nous et pour la saison, où nous reprenons la série des mardis. C'est-à-dire, une fois par semaine, à partir de janvier jusqu'au mois d'avril, les mardis à 18h15, pour des formats d'une heure à une heure et quart. C'est la même chose, on parlait de développement de public, c'est important parce que on a un public de fidèles, mais aussi on a un public de nouveaux abonnés, de nouvelles têtes qui viennent, notamment des enfants aussi, et beaucoup, parce que comme les œuvres souvent sont des œuvres courtes, les parents n'hésitent pas à venir avec du jeune public, et je les encourage à venir avec du jeune public aussi. Voilà, donc c'est un partenariat important, la salle s'y prête bien, elle fait 180 places, donc musique de chambre, piano, récital. On a abandonné complètement la voix cette année pour des raisons tout à fait normales. Christophe faisant ça très bien avec des récitals de voix importants cette année.
Christophe Gresti, Christophe le directeur
voilà,
du Théâtre du Capitole.
Voilà, a fait une série absolument superbe cette année au niveau des récitals lyriques. Et je vous y engage vraiment de parcourir.
Nous en avons déjà parlé.
Voilà, sur les leaders. Donc, on ne s'est pas du tout placé sur ce genre de créneau. On se place vraiment sur la musique de chambre avec une ligne qui a toujours été la nôtre, c'est-à-dire à la fois la découverte de jeunes talents qui sont issus pour la plupart de grands concours internationaux.
Alors, la programmation 18-19 de cette saison bleue, comment vous l'avez construite? Alors, il y a des invariants, si je puis dire, hein, la présence de musiciens qu'on est habitué à entendre depuis des années. Et puis, il y a des nouveautés, des changements, des axes de programmation bien précis. Expliquez-nous un peu ça.
Alors, on a un peu abandonné les notes du musicien cette année, de Philippe Cassard. On l'a invité plutôt à venir avec des musiciens avec qui il avait envie de travailler. Donc, de venir sur des cartes blanches. Donc, on en fait la première, bien entendu. On l'a commencé depuis plusieurs années, c'est avec le trio qu'il mène avec David Grimman et Anne Gastinel. Ils avaient commencé l'année dernière l'intégrale des trios de Beethoven. Ils reviennent cette année et c'est assez rapproché comme date puisque ça sera le vendredi 16 novembre. Donc je vous invite vraiment à réserver et nous serons à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Ça sera un programme hyper intéressant dans cette poursuite jusqu'à l'année anniversaire Beethoven. Il vient ensuite en janvier avec un autre quatuor à cordes qui est le quatuor Hermès. Ensuite, il fera un concert seul en mars autour de Schubert et il viendra avec Nicolas Balderou, qui est un superbe clarinettiste qu'on a peu entendu à Toulouse, dans le cadre de l'année Picasso. On en reparlera tout à l'heure.
On va vraiment éplucher ce programme. Alors, la grande nouveauté, me semble-t-il, c'est qu'il y a des cycles.
Oui,
année.
Donc... On programmait jusqu'à maintenant sur l'idée ou d'une esthétique musicale ou d'un compositeur. Pourquoi ? Parce que quand on avait ou Jean-François Zigel ou Philippe Cassard, ils donnaient en fait le « là » au « moi », à savoir quand ils présentaient une esthétique ou quand ils présentaient un compositeur. Comme on a un peu changé cette manière de programmer, j'avais envie, et aussi pour ouvrir, les publics, de travailler sur des thèmes. Donc cette année, on travaille sur des séries, on a 4 thématiques. Des thématiques qui sont assez larges, mais qui regroupent véritablement l'essence même de la musique. Une sur la nature, une sur l'amour et la mort, une sur le folklore. Et, bien évidemment, ce qui va faire la grande originalité de cette saison, et pour bien marquer notre partenariat avec le musée des abattoirs présente et propose, à partir du mois de mars, une grosse exposition sur Picasso et l'exil. Donc j'ai inventé tout le mois d'avril sur le lien qu'a pu avoir Picasso et la musique ou Picasso et les compositeurs.
Oui, alors ça, on va en parler bien sûr parce que ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Vous avez parlé de l'ouverture de la saison. Donc, je rappelle que l'ouverture de la saison officielle, c'est le 15 novembre au Métronome avec l'Orchestre National de Jazz.
C'est rare.
Ah oui, formation.
Il est très peu venu.
Très prestigieuse.
Et c'est la dernière fois qu'il vient dans cette formation-là puisqu'il change de directeur à partir du mois de janvier.
Et dès le lendemain, un des concerts exceptionnels dont vous avez parlé, il a lieu à Saint-Pierre-des-Cuisines vendredi 16 novembre. Et là, ce sera à 20h30 avec Anne Gastinel, Philippe Cassard et David Grimal qui vont jouer deux trios de Beethoven, le 3e et le 7e. Bon, je pense que c'est un peu un vœu de votre part d'ouvrir en fanfare la saison avec
oui,
un trio comme ça.
Tout à fait. Et puis, c'est ainsi qu'on poursuit. Ils sont déjà venus deux fois, hein, avec, une fois avec Haydn et l'année dernière déjà avec Beethoven. Donc, on poursuit véritablement ce cycle.
Avec Philippe Cassard, fidèles parmi les fidèles de vos programmations, eh bien, on va les écouter, Anne Gastinel, Philippe Cassard et David Grimal, dans un extrait d'un trio de Beethoven. Ben, c'est le premier, trio numéro 1, opus 1. Petit extrait du trio numéro 1, opus 1 de Beethoven, interprété par le trio Gastinel, Cassard, Grimal, qui joueront les trios numéro 3 et numéro 7 du même Beethoven lors du concert qu'ils vont donner vendredi 16 novembre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. On reverra bien sûr Philippe Cassard à plusieurs reprises durant la saison, comme c'est le cas depuis des années, seul au piano ou accompagné d'autres musiciens, comme par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, Alain Lacroix, le Quatuor Hermès, ce sera le 28 janvier, toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines. Mais donc, la grande nouveauté de cette saison, le 18-19, c'est ce séquençage en grande série avec ses titres évocateurs, Nature, L'amour et la mort, Folklore, Picasso et l'exil, et puis il y aura un concert Moondog dont on va parler bien sûr également. Donc la première série, ça sera en début d'année 2019, au mois de janvier, c'est Nature, il y a trois volets. Quels sont les musiciens et les formations que vous avez retenus pour l'illustrer?
Alors, vous me demandiez tout à l'heure comment on s'y prend en gros. D'abord, il y a les interprètes. Donc on choisit les interprètes. On choisit l'interprète de deux façons. D'abord, les propositions qu'on peut avoir. Sandrine Tilly, la flûtiste solo de l'orchestre, voulait absolument revenir sur la saison bleue. Donc, on a commencé à discuter et je lui ai dit, je vais travailler cette saison sur la nature. Je lui ai proposé en fait toutes les séries et elle m'a dit, ah, j'ai envie de travailler sur la nature. Et à partir de là, elle a concocté son programme. En fait, moi, je travaille avec les artistes sur la confiance. Je n'impose pas un programme, jamais. Par contre, je vais lancer l'idée de la programmation. Et c'est pour ça qu'il est très très rare qu'on trouve dans les concerts que l'on peut donner à la saison bleue des concerts qui ont déjà été donnés ailleurs. Parce qu'en fait, on choisit une thématique. Donc souvent, donc, ce sont des créations de concerts. Pas des créations toutes courtes, mais des créations de concerts.
De programmes en tout cas.
De programmes, quoique, on y reviendra pour les abattoirs. Donc Sandrine, elle avait envie sur la notion de nature de présenter Clair de lune de Debussy, la sonate numéro 2 pour flûte alto et harpe. Et en miroir, elle a choisi de présenter une œuvre de Takemitsu, qui est un grand, grand compositeur japonais. Et elle l'a entouré d'œuvres qui sont d'une esthétique qui s'approche ou qui sont en miroir, Jolivet, Saint-Saëns et Stravinsky.
Oui, André Jolivet aussi, voilà. Compositeur qu'elle apprécie beaucoup, hein,
voilà.
Sandrine.
Et donc, Sandrine s'est entourée de Violaine d'Espeyrou, l'altiste, et de Gaël Touvenin, l'harpiste du Capitole. Et Violaine d'Espeyrou est une ancienne du Conservatoire de Toulouse, qui est au supérieur ou qui est passée par le supérieur de Paris. Donc, jeune artiste dont, pour moi, ça va être la première fois qu'elle va jouer dans la programmation de la saison. Et ça, pour moi, c'est véritablement important de défendre les jeunes qui sont partis de Toulouse, qui font une carrière ou qui commencent une carrière en dehors de Toulouse et qui reviennent ici et qui jouent. Ça va être le cas cette année de Tom Grimaud. Je me souviens, moi, de Tom qui a joué son premier concert à Croix-Baragnon à l'époque. Il était tout jeune élève du conservatoire. Donc cette année, j'avais envie de revoir Tom venir dans la saison. C'est le cas aussi d'un jeune pianiste que je suis vraiment, que je garde au chaud et qui est absolument fantastique, qui s'appelle Vincent Mussa, qui sort aussi du conservatoire. Donc on a eu toutes ces générations, c'est-à-dire on a eu la génération Chamaillou, la génération Adam Laloum, la génération Nathanaël Gouin.
On va en parler aussi.
François Mosqueta, maintenant on a Vincent Mussa. On a véritablement une filiation au niveau des pianistes et on a aussi une filiation importante au niveau des instrumentistes. J'en parlais. Pourquoi d'abord? Parce qu'on a un conservatoire qui est important à Toulouse. Et d'autre part, parce que de nombreux enfants issus de familles de musiciens du Capitole, eh ben, ils ont commencé à aller sur les bancs des conservatoires et maintenant, c'est la relève montante.
Ce qu'on appelle les enfants de la balle.
Et voilà.
Voilà. Donc, Sandrine Tilly, Gaël Touvenin et Violaine Despérou, ce sera le mardi 8 janvier à 18h15 au Abattoir. C'est dans le cadre des Mardis Bleus dont vous avez parlé tout à l'heure. Programme Jolivet, 500, Takemitsu, Debussy, Stravinsky. Un petit mot de Serge Chose.
Magnifique programme, a priori, hein, de jouer du Takemitsu après Debussy, c'est idéal. Il y a une filiation évidente entre les deux.
C'est ça qui est extraordinaire avec les musiciens. C'est quand on leur donne confiance et quand on leur fait confiance, ben voilà, ils vous proposent des programmes qui sont des petites merveilles. Et j'avais demandé un peu, bon, on en reparlera encore tout à l'heure, notamment le lien que j'ai avec Pro Quartet cette année. Pour moi, il était important que dans un musée d'art contemporain, on puisse donner des œuvres qui soient des œuvres contemporaines, de près ou de loin. Donc il y aura 3 créations cette année quand même, qui sont des créations de 2018, qui vont être des miniatures après les concerts, mais en bis, on aura des miniatures de 2 ou 3 minutes, dont une de Michel Reverdy.
Alors après, toujours dans le cadre de la série Nature, le pianiste Julien Brocal, le mardi suivant, le 15 janvier à 18h15, toujours au musée des Abattoirs, avec un programme, là aussi, qui tombe sous le sens, Mampaou Ravel.
Oui. Alors là, pareil, nature, Julien, il n'est pas toulousain, Julien Brocal, c'est un jeune pianiste, on m'a envoyé son disque, j'ai écouté et j'ai trouvé ça assez incroyable, notamment sur ce lien qu'il a et cette vision qu'il a de la nature. Et entre Ravel le basque et Mampaou le catalan, il y avait toute une filiation. Et c'est vrai que entre les variations sur le thème de Chopin, les paysages et puis bien sûr Miroir ou La barque sur l'océan de Ravel, il y a véritablement une filiation qui est importante et qui me paraissait assez évidente. Mais là encore, c'est une proposition de Julien. Le programme est vraiment une proposition de Julien Brocal.
Et troisième volet de la série Nature, le mardi suivant, 22 janvier à 18h15, toujours aux Abattoirs, duo.
Oui, là c'est une grande chance parce que bon, maintenant c'est des gens qui sont confirmés. Moi j'ai découvert Romain Descharmes, il était tout jeune, j'étais encore dans mes précédentes fonctions aux affaires étrangères et il venait de gagner les concours internationaux. Et il est avec Déborah Namtaounou, la violoniste, qui est véritablement maintenant, ces deux artistes vraiment de grande renommée internationale, qui me font l'amitié de venir à Toulouse dans la série, avec un programme autour de la sonate pour violon et piano de Brahms, les 5 danses champêtres de Sibelius, qui est quand même des choses qui sont peu données. Un compositeur qu'on ne connaît pas, Porumbescu, ouais. La balade pour piano
l'autre
et
Romain,
voilà,
avec Enesco.
Avec Enesco et la sonate numéro 3 pour violon et piano en sol de Claude Debussy. Donc, une large palette d'émotions pour ce programme sur la nature de la part de nos deux jeunes talents.
Voilà donc les 3 volets de cette série Nature. Et pour en donner un aperçu, je propose qu'on écoute le pianiste Julien Brocal dans le programme qu'il va jouer le 15 janvier. Il y a entre autres Miroir de Maurice Ravel. En voici un extrait, La Vallée des Cloches. Thank you. Julien Brocal qui interprétait La Vallée des Cloches, extrait de Miroir de Maurice Ravel, une des pièces qu'il jouera lors de son concert du 15 janvier au Musée des Abattoirs. Série suivante, L'amour et la mort. Alors, qui avez-vous convoqué pour incarner en musique ces deux thèmes éternels qui ont inspiré tant d'artistes ?
Oui, on peut convoquer beaucoup de monde sur ce thème-là. C'est un thème très riche hein, qui parle. Même avant les romantiques, mais en tout cas pour la musique de chambre, c'est vrai que les romantiques que l'on pense à Liszt en tout premier chef, mais aussi Schubert, Schumann, etc. Donc c'est vraiment des thèmes absolument indémodables, ce sont des thèmes mythiques. Donc le premier, c'est Tom Grimaud, j'en parlais tout à l'heure, jeune pianiste toulousain, extrêmement talentueux, qui s'attaque à un programme quand même assez compliqué, puisqu'il va faire la balade numéro 2 de Liszt, plus une étude d'exécution transcendante, le Vidliakt. Ensuite, deux transcriptions par Liszt de Franz Schubert. Ensuite, c'est un de ses chevals de bataille, le Roméo et Juliette de Prokofiev. Il va ensuite revisiter le Largo de Bach dans une transcription. Et il finira par la Pavane de Maurice Ravel. Donc c'est véritablement là un beau programme,
oui, c'est
ambitieux,
c'est consistant.
Consistant, ambitieux, mais extrêmement beau. Et je suis vraiment content qu'il défende ce programme. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, Tom. Et il faut vraiment qu'on le fasse connaître à Toulouse.
Eh bien, nous vous invitons à le découvrir le mardi 5 février à 18h15 au Musée des Abattoirs. Le suivant, vous en avez parlé tout à l'heure, comme de Tom Grimaud d'ailleurs, c'est un de vos petit protégé, on va dire. Vincent Mussa, autre pianiste.
Oui, alors, ce qui est très amusant aussi, c'est que les musiciens vous signalent quels sont les musiciens qui sont au Conservatoire de Paris ou qui sont des musiciens qui sont des bons, ou etc. Alors ça, c'est Thibaut Garcia qui me dit. Il faudrait vraiment entendre Vincent, parce que Vincent, c'est quand même quelqu'un. Donc j'ai écouté Vincent, je l'ai fait jouer l'année dernière en duo, et puis quand j'ai entendu en duo, j'ai dit « Ah !» Il faut qu'on passe vraiment au soliste. Et donc, je lui ai confié cette année un programme. Il sort du Conservatoire de Paris. Il continue ses études à Vienne en ce moment. Et donc, il nous revient avec des Nocturnes de Gabriel Fauré, le Gaspard de la Nuit de Ravel, rien que ça, Granados, et on finira par la Fantaisie en Fa de Chopin. Donc, c'est un superbe programme. Mais je vous demande de le suivre avec attention, parce que je pense que c'est véritablement la nouvelle génération des pianistes toulousains. Et il y a de quoi faire.
Mardi 12 février, Vincent Mussa, 18h15, au Musée des Abattoirs. Et après, alors, l'équateur, les trios, c'est aussi très important. L'équateur Yaku.
Alors là, je vais vous dire comment ça s'est fait. C'est une nouveauté aussi depuis l'année dernière. Nous sommes en partenariat avec Pro Quartet. Pro Quartet, c'est une association qui défend la musique de chambre en France et à l'international, et qui fait la promotion des cordes, à la fois les quatuors et les trios. Donc ils sont partenaires de la saison bleue, donc on aura 4 programmes avec de jeunes quatuors ou de jeunes trios. Donc là, le quatuor Yaku, qui vient avec un programme là vraiment très romantique, Félix Mendelssohn et Robert Schumann, avec quatuor à cordes en Fa et le quatuor à cordes numéro 3 pour Schumann, qui sont véritablement deux grands morceaux de bravoure. Donc ce sont des jeunes quatuors qui travaillent toute l'année dans ce centre européen. Et ce centre européen les envoie un peu partout dans le monde, à la fois en France, mais aussi dans le monde, pour pouvoir se perfectionner. Ils se perfectionnent auprès des plus grands, à la fois français et étrangers. Et ils participent aussi, c'est une des nouveautés cette année, on a un des ensembles qui va poursuivre son travail dans les prisons, c'est-à-dire qu'il va pouvoir présenter un concert dans les prisons, dans le cadre d'un partenariat que nous avons aussi avec les prisons. Et c'est assez extraordinaire de pouvoir aussi offrir de la musique de chambre dans le milieu carcéral pour des publics empêchés.
Bien sûr, très belle initiative. Le Quatuor Yaku jouera le mardi 19 février à 18h15 au Musée des Abattoirs et le mardi suivant, le 26 février, au même endroit, toujours à 18h15, le trio Sora.
Pareil, les Sora qui nous viennent avec un autre programme sur l'amour et la mort. Toujours là, on reste véritablement sur la période romantique avec Clara Schumann et Johannes Brahms. Les Sora, c'est 3 jeunes femmes, deux violons, violoncelle et piano. Et elles ont été lauréates de nombreux prix, notamment le Parkhouse Award. Et elles sont résidentes Pro Quartet depuis 2016.
Nous allons en profiter pour le découvrir, ce trio Sora, le découvrir dans ses œuvres avec leur version du trio pour piano et cordes numéro 1, opus 8 de Johannes Brahms, une des pièces qu'elles joueront le 26 février. Thank you. trio pour piano et cordes numéro 1 plus 8 de Johannes Brahms, interprété par le trio Sora, que vous pourrez donc retrouver en concert mardi 26 février à 18h15 au Musée des Abattoirs. La série suivante en mars, vous l'avez titrée Folklore. Qui allons-nous entendre dans ce folklore musical ?
On attaque bien évidemment par les noms d'Europe centrale, notamment Dvorak. On sait très bien que Dvorak a consacré une grosse partie de sa carrière à des compositions de mélodies et qu'il a été véritablement marqué par l'inspiration populaire dans un collectage important. On aurait pu aussi visiter des œuvres comme, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup moi en Europe centrale aussi, c'est Martinou. On l'a pas cette année, mais c'est quelqu'un que j'aimerais un jour faire connaître. C'est un compositeur qu'on entend peu et qui a écrit à la fois pour le piano, pour l'orchestre, et aussi de nombreuses mélodies pour les voix. Ils ont choisi ensuite Ligeti avec le quatuor numéro 1 qui a été composé en 53-54 lorsque Ligeti vivait à Budapest. Et ils joueront aussi le quatuor numéro 1 de Brahms en ut mineur avec cette austérité qui n'est qu'une austérité apparente pour ce programme.
Alors, vous avez dit il, mais vous n'avez pas cité la formation.
Ah oui,
c'est le quatuor Tchalik, et je dis bien Tchalik, à ne pas confondre avec le quatuor Talitch, ce n'est pas la même chose.
Alors, il y a souvent dans la musique de chambre des familles. Et là, ce sont des frères et sœurs, donc Gabriel, Louise, Sarah et Marc. Et c'est véritablement des frères et sœurs. Il y a plusieurs quatuors et trios, souvent, qui sont formés par des frères et sœurs.
Donc là, ben vraiment, voilà, quatuor Hagen. Au début, il n'y avait que des frères et sœurs. Et puis ensuite, il y a l'un qui est parti.
Guillaume et Marie Chilem jouent assez souvent ensemble aussi, oui, notamment avec Nathanaël Gouin. Donc ça, c'est le 5 mars à 18h15, toujours au Musée des Abattoirs pour le quatuor Tchalik. Après, Philippe Cassard va revenir et là, il va être seul au piano
Schubert
pour les sonates de Schubert le mardi 12 mars à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Voilà, c'est un concert exceptionnel.
Cassard,
oui,
c'est une vieille histoire.
Oui, et là vraiment il avait envie de défendre cette année Schubert, donc c'est absolument merveilleux.
Et voilà, et le mardi 19 mars, on revient aux abattoirs à 18h15.
Oui.
Le trio Atanasov, alors il ne faut pas se tromper, on dit, mais ce sont des Russes, ils sont d'origine russe.
Oui.
En tout cas, le
pianiste.
Celui qui a donné son nom au trio.
Oui, et alors c'est la deuxième fois que nous les accueillons. Je les ai accueillis, ils étaient tout jeunes, c'était un tout jeune quatuor. Un tout jeune trio. Et vraiment, j'avais envie de les revoir à Toulouse. C'est des merveilleux musiciens. Et là, pareil, le folklore national dans un pays qui a nourri les œuvres. Le point commun, c'est vraiment Bartok, Dvorak et Franck Martin, avec les mélodies populaires irlandaises, la suite de danse pour orchestre, transcrite pour trio avec piano par Perceval Gilles, et le trio pour piano et cordes numéro 4, Dunkip, qui est véritablement un des grandes pièces de bravoure pour ce genre de formation.
Ouais, et puis on parlait de Dvorak, et s'était beaucoup inspiré du folklore d'Europe centrale, mais on peut en dire autant de Bartok. Alors lui,
bien
carrément,
sûr,
il allait enregistrer dans les campagnes.
Et son compère Kodály aussi.
Et Kodály, effectivement.
Tous les deux.
C'est véritablement, encore une fois, le folklore est un thème extrêmement riche. Surtout au 19e siècle, quand on voit le collectage qui a été fait aussi pour les contes de fées à l'époque, les frères Grimm, enfin, il y a toute une époque, il y a tout un contexte, et heureusement qu'on a pu collecter à cette
époque-là.
C'est
ça, c'est merveilleux et précieux patrimoine qu'on a conservé grâce à ces compositeurs, entre autres.
Et on collecte encore, ici en Midi-Pyrénées, le conservatoire
Occitan
fait un collectage important des vieilles mélodies, et puis aussi, je vois qu'il y a des danseuses dans les studios, mais il y a aussi un collectage au niveau des danses et de tout le travail au niveau du collectage.
Alors, le dernier cycle de concerts, celui du mois d'avril, a pour titre Picasso et l'exil. Référence aux artistes que le peintre espagnol a fréquenté et connu à Paris au début du siècle dernier, certains d'entre eux étant d'ailleurs en exil aussi.
Voilà, là vraiment, c'est une programmation qui est faite sur mesure pour les abattoirs et qu'on a inventée véritablement pour eux. On a pensé avec les artistes et j'ai demandé aux artistes de travailler sur ce répertoire-là, qui est un répertoire extrêmement spécifique. Donc Fanny Azzurro, qui est une jeune pianiste peu connue encore en France, qui va commencer la série avec Ravel, Albéniz, Satie, Piazzolla et Nicolai Capuzzin. Donc si Picasso a peint la musique avec quantité de nature morte émaillée de guitare et de violon, bien évidemment, l'amour et la musique du peintre espagnol étaient bien vivants.
Oui, et puis il y a Satie qui l'a fréquenté.
Bien sûr, voilà, et Stravinsky aussi. Donc on attaque avec ce Pablo Picasso qui peignait en écoutant ses contemporains, avec un très très beau programme, et on est le 2 avril au Musée des Abattoirs.
Voilà, les mardis bleus, 18h15. Alors, à la suite, là, on va s'attarder un petit peu parce qu'on a nos petits Toulousains qu'on aime beaucoup. Le trio Guillaume Chilem, Yann Le Villonnois, qui lui n'est pas Toulousain, je crois.
Non,
pas,
mais qui est
violoncelliste.
Qui est un sacré violoncelliste.
Et Nathanaël Gouin, qu'on a cité déjà.
Un très beau trio. Donc, Nathanaël et Guillaume, ils ont remporté le premier prix du concours international de duo en Suède. Et Yann a obtenu le premier prix du concours international André Navarra. C'est véritablement
une sacrée référence.
C'est une sacrée référence et c'est vraiment un superbe interprète. Et donc intéressant, on sait que la rencontre avec Igor Stravinsky a été déterminante.
Les ballets russes.
Voilà, les deux artistes ont travaillé ensemble pour Pulcinella et Picasso signera d'ailleurs les costumes et les décors. Et le ballet deviendra la fameuse suite italienne qui est transcrite ici pour deux instruments à cordes. Donc véritablement, là, on est au cœur du sujet. Picasso a fréquenté bien évidemment Poulenc et Maurice Ravel lorsqu'il était à Paris. Et Defaya, c'est un clin d'œil à l'exil, véritablement.
Espagnol, voilà. La partie espagnole du concert, voilà. il a fallu.
Et on sait que Defaya s'exila pour sa part en Argentine à la même époque.
Voilà, superbe programme et superbe trio de musiciens. Donc le 16 avril.
Là encore, c'est véritablement un choix de Nathanaël qui s'est concerté avec ses petits camarades pour nous proposer ce superbe programme autour de cette thématique.
Excellent jeune pianiste qui commence à faire une très très belle carrière, Nathanaël Gouin, à la suite de Bertrand Chamaillou et d'Adam Laloum. Donc, je le répète, mardi 16 avril à 18h15 aux abattoirs. Ils ne joueront pas toujours en trio, il y aura des duos aussi, voilà. je le précise. La suite, de nouveau, l'ami Philippe Cassard, mais qui va jouer en duo et voilà. Avec un clarinettiste.
Ah oui, là, c'est quelque chose. Je ne sais pas si Nicolas Baldero est venu souvent à Toulouse, je pense.
Je l'ai vu à Toulouse, effectivement. Oui. Il est déjà venu en concert, c'est un magnifique instrumentiste.
C'est quand même, Nicolas, trois prix de concours internationaux. Le prestigieux concours de la RD à Munich, on était en 98. Le concours Dos Hermanas en Espagne en 99. Et le Young Artist Competition aux États-Unis en 2001. Donc c'est véritablement du très solide. En plus, lauréat des concours Carl Nissen et de Bucarest. Et un superbe programme qu'ils ont concocté aussi. Claude Debussy, la Rhapsodie pour clarinette en Si. Les trois pièces pour clarinette seul de Stravinsky, Granados, Manuel Defaya et Camille Saint-Saëns, la sonate pour clarinette et piano. Donc un mélange encore à la fois musique française et musique espagnole.
Pour le duo Cassard-Baldero, mardi 23 avril aux abattoirs. Et puis, dernier concert de la saison d'ailleurs, et dernier concert de ce cycle Picasso et l'exil, le Quartetto Quiroga.
Alors, intéressant, on n'aurait jamais pu les avoir sans Pro Quartet. C'est de la catégorie des Modigliani et des Ébènes en Espagne. Donc c'est un des grands quatuors hyper emblématiques espagnols. Il joue à Paris sur l'année Picasso, puisqu'il y a eu aussi une exposition aux Invalides. Et donc ils viennent tout de suite après à Toulouse pour nous proposer là un superbe programme aussi. Tulina avec l'Oración del Torero. Ginastera, le quatuor à cordes, Shostakovich, le quatuor à cordes, et Halfter.
Rodolfo Halfter.
Voilà, avec véritablement un superbe concert. On peut considérer ce quatuor comme l'un des plus dynamiques de sa génération en Espagne. Et ça me fait vraiment très plaisir de les présenter à Toulouse pour la première fois.
Ne ratez pas le Quartetto Quiroga, mardi 30 avril à 18h15 au Musée des Abattoirs. Pour illustrer ce dernier cycle de la saison Picasso et l'exil, je vais vous faire écouter le duo Guillaume Chilem-Nathanaël Gouin dans une sonate pour piano et violon de Marguerite Canal. Et on vous dira pourquoi tout à l'heure, c'est un petit clin d'œil à Toulouse. La sonate pour piano et violon de Marguerite Canal, le troisième mouvement, interprété par Nathanaël Gouin et Guillaume Chilem, qui se produiront avec le violoncelliste Yann Levillonois au Musée des Abattoirs mardi 16 avril à 18h15. Et pourquoi je disais que c'était un clin d'œil de vous faire écouter cette composition de Marguerite Canal jouée par les deux musiciens toulousains que sont Nathanaël Gouin et Guillaume Chilem? Eh bien parce que Marguerite Canal était toulousaine elle-même, et elle est morte il y a une quarantaine d'années, 40 ans tout rond d'ailleurs, en 1978, à Toulouse. Je ne voulais pas oublier que dans le cadre de l'année Moondog à Toulouse, la Saison Bleue rend aussi hommage au compositeur américain mort il y a 20 ans, notamment avec le concert Les Enfants de Moondog, la Lune et le Chien, jeudi 21 février à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et là, je vous le donne en mille, c'est Jean-François Zigel, autre habitué de vos programmations, là, la Croix qui s'y colle avec ses invités. Est-ce que tout est secret concernant le programme de ce concert et les invités Jean-François Zigel, ou est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus?
Avec Jean-François, ça va être de l'impro, mais de l'impro à la Jean-François Zigel, c'est-à-dire que tout est extrêmement pensé, donc il y pense depuis longtemps, c'est quelqu'un qui connaît.
Ah oui, apparemment il a beaucoup compté pour lui, Moondog.
C'est en sortant du conservatoire grâce au musicologue Daniel Coe que j'ai découvert l'un des personnages les plus singuliers, les plus originaux, les plus improbables de l'histoire de la musique du XXe siècle. Personnalité inclassable, il n'a cessé depuis de me hanter, c'est à lui que je dois d'être sorti de mon chemin tout tracé de musicien classique bourgeois et d'avoir compris que nous devions désormais connaître à la fois Bach et le jazz, Fauré et les musiques répétitives, Hindemith et les musiques du monde. Donc voilà, c'est un bel hommage. Il était très très content que je lui propose ce projet, qui est un projet un peu fou. Mais j'aime, avec Jean-François, les projets fous. On en a fait beaucoup ensemble, comme le mettre sur un piano en plein milieu de la Garonne pour jouer sur l'eau. Donc pour moi, c'était une évidence que Jean-François devait venir sur ce genre de projet. Donc il a invité avec lui Pierre Hamon, flûte amérindienne et vase siffleur du Mexique, Didier Malherbe que l'on connaît bien, avec du ken, du doudouk, du taragot et du banzuri, et Thomas Blore, et Cristal Bachet et Onde Marteneau. Donc avec ça, la Lune et le Chien, comme il a appelé son concert Les Enfants de Moondog, la Lune et le Chien, va être bien représenté. Donc on attend avec impatience ce concert le jeudi 21 février et nous serons à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines.
Voilà, il ne faudra pas rater ce concert, je sens que ça va être quelque chose. Jeudi 21 février à 20h30 à Saint-Pierre des Cuisines. Et bien voilà, on a fait le tour de cette très riche et très dense programmation de la saison 18-19, la saison bleue. Il faut hélas conclure cette émission maintenant. Merci infiniment à vous deux, Serge Chosy et Alain Lacroix, d'y avoir participé et de l'avoir brillamment animé à mes côtés. La saison bleue s'ouvre les 15 et 16 novembre avec les concerts de l'Orchestre National de Jazz au Métronome le 15 à 20h30, puis avec celui du trio Gassinel, Cassard, Grimal le 16 encore à 20h30, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ensuite, jusqu'à fin avril, il va y avoir tous les bons et beaux moments de musique que nous avons évoqués au cours de cette émission. Pour découvrir tout le programme et réserver vos places, je vous invite à vous connecter au site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Pour avoir les renseignements et faire vos réservations pour le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, celui que Serge Chosy vous a présenté, il a lieu ce samedi 27 octobre à 20h à la Halle aux Grains. C'est sur le site www.onct.toulouse.fr qu'il faut se connecter. Autre événement musical que je tenais à signaler, le concert hommage à Lily Boulanger à la Chapelle des Carmélites de Toulouse. Également ce samedi 27 octobre à 20h, plusieurs pièces de la compositrice française, morte bien trop jeune il y a tout juste un siècle, vont être interprétée par la flûtiste Sandrine Tilly, encore elle, la pianiste Anne Le Bozec, les chanteurs Yaël Ranan-Vandor et l'autre chanteur Thomas Dollier. Il y aura aussi le chœur du Capitole sous la direction d'Alfonso Cayani. Vous pouvez réserver sur le site www.theatreducapitole.fr. Et puis je signale aussi le concert que donne l'ensemble Camerata Vocale en l'église Saint-Exupère de Toulouse, vendredi 2 novembre à 20h30, avec un joli programme d'œuvres de la Renaissance et de l'époque baroque pour chœurs et cuivres. Il y a un site internet à consulter pour avoir plus d'informations et tout le détail du programme, www.cameratavocal.frama.site. Je remercie Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et passez tous une excellente semaine musicale.